Chapitre 36. Une femme nouvelle. Et lorsque les gens du peuple parlaient d'eux, les libérateurs affirmaient être mal jugés en raison de la nature de leur pouvoir. Et lorsqu'ils traitaient avec les autres, ils demeuraient fermes dans leur affirmation selon laquelle d'autres épithètes, notamment désagrégateurs, souvent entendus dans la langue populaire, étaient d'inacceptables substituts à cause du sens qu'on leur prêtait, voisin de celui de Néantifère. Ils exprimaient également leur colère quant aux préjugés associés, bien qu'il n'y ait, aux yeux d'une grande partie des orateurs, guère de différence entre ces deux catégories. Extrait du livre des Radieux, chapitre 17, page 11. Quand Shallan s'éveilla, elle était une femme nouvelle. Elle ne savait pas encore avec une certitude absolue qui était cette femme, mais elle savait qui elle n'était pas. Ce n'était plus la jeune fille effrayée qui avait subi le chaos d'un foyer brisé, ni la jeune femme naïve qui avait tenté de voler Jasna Colline. Ce n'était plus la même femme qui avait été trompée par Kabzal, puis par Tin. Ça ne signifiait pas pour autant qu'elle n'était plus effrayée ni naïve. Elle était les deux. Mais elle était également fatiguée. Fatiguée de se faire bousculer, tromper, mépriser. Au cours du voyage avec Teflakf, elle avait faim d'être capable de prendre le commandement. Elle n'éprouvait plus le besoin de faire semblant. Elle s'agenouilla près de l'une des mâles de Tin. Elle avait refusé de laisser les hommes l'ouvrir de force. Elle avait besoin de plusieurs mâles pour conserver ses vêtements. Mais sa fouille de la tente ne lui avait pas permis de trouver la bonne clé. « Motif ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur ? Te faufiler par le trou de la serrure ?»« Motif alla se placer sur le côté de la malle, puis rétrécit jusqu'à atteindre la taille de l'ongle du pouce de Shallan. Il entra facilement. Elle entendit sa voix depuis l'intérieur. « Il fait noir !»« Flûte !» lâcha-t-elle en prenant une sphère qu'elle approcha de la serrure. « Est-ce que ça t'aide ?»«
Je vois un motif !» déclara-t-il.
« Un motif ? Quel genre de... »
Clic.
Shallan sursauta, puis tendit la main pour soulever le couvercle de la malle. Motif bourdonnait joyeusement à l'intérieur. « Tu l'as déverrouillé ?»«
Un motif !» dit-il d'une voix joyeuse.
« Tu peux faire bouger les choses ?»«
Pousser un peu ici et là, » dit-il. « Très peu de force de ce côté-ci.
La malle était remplie de vêtements et contenait une bourse de sphères dans un sac de tissu noir. Tout ça se révélerait très utile. Shallan fouilla le contenu de la malle et y trouva une robe finement brodée à la coupe moderne. Tin en avait besoin, bien entendu, pour les occasions où elle devait se déguiser en quelqu'un d'un statut plus élevé que le sien. Shallan l'enfila, la trouva un peu large au niveau du buste, mais tout à fait acceptable par ailleurs. Puis se maquilla et se coiffa devant le miroir en utilisant les fards et les brosses de la morte. Lorsqu'elle quitta la tente ce matin-là, elle se sentit, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, comme une véritable femme Paliris. Une bonne chose, car, aujourd'hui, elle allait enfin atteindre les plaines brisées. Et, avec un peu de chance, sa destinée. Elle sortit à la lumière du matin. Ses hommes travaillaient main dans la main, avec des parches de la caravane pour démonter le camp. À présent que les gardes de Tin étaient morts, la seule force armée dans le camp appartenait à Shallan. Vatat vint se placer à ses côtés.
« Nous avons brûlé les cadavres la nuit dernière, selon vos consignes, Clarissime. Et notre patrouille de garde est passée ce matin, pendant que vous vous prépariez. De toute évidence, il voulait que nous sachions qu'il comptait maintenir la paix. Si quelqu'un campe à cet emplacement et découvre les ossements de Tin et des soldats parmi les cendres, ça pourrait susciter des questions. Je ne sais pas dans quelle mesure les membres de la caravane garderont le secret si on leur pose la question.
« Merci, » répondit Shallan. « Demandez à l'un de vos hommes de rassembler les ossements dans un sac. Je m'en occuperai. » Venait-elle vraiment de dire ça? Vatat hocha la tête d'un geste brusque, comme si c'était la réponse qu'il attendait.
« Certains des hommes sont mal à l'aise à présent que nous sommes tout près des camps de guerre. »
« Me croyez-vous toujours incapable de tenir les promesses que je leur ai faites ?» Chose étonnante, il sourit.
« Non, Clarissime, je crois que j'ai été clairement convaincu du contraire. »
« Alors ?»«
Je vais les rassurer, » dit-il.
« Parfait. » Ils se séparèrent tandis que Shallan partait à la recherche de Makob. Lorsqu'elle le trouva, le maître commerçant de la caravane, barbu et vieillissant, s'inclina devant elle avec bien plus de respect qu'il ne lui en avait témoigné jusqu'alors. Il avait déjà entendu parler de la lame d'éclat. « J'aurai besoin qu'un de vos hommes descende dans les camps de guerre et me trouve un palanquin », déclara Shallan. « Il m'est actuellement impossible d'envoyer un de mes soldats. » Elle ne voulait pas risquer qu'on les reconnaisse et qu'on les emprisonne.
« Certainement », admit Macob d'une voix ferme. « Le prix en sera... »
Elle le fixa d'un regard lourd de sous-entendu.
« Prélevé sur ma propre bourse, pour vous remercier de nous avoir permis d'arriver sains et saufs. »
Il insista curieusement sur ces derniers mots, comme s'il n'était pas très sûr qu'ils soient à leur place dans cette phrase. « Et le prix de votre discrétion ?» demanda Shallan.
« Elle vous est toujours acquise, clarissime, » répondit-il. « Et d'autres lèvres que les miennes devraient vous inquiéter davantage. »
C'était vrai. Il monta dans son chariot.
« L'un de mes hommes va partir en éclaireur et nous enverrons un palanquin pour vous chercher. Sur ce, je vais vous faire mes adieux. J'espère ne pas vous insulter en affirmant, clarissime, que j'espère ne jamais vous revoir.
Dans ce cas, nous sommes en accord sur ce point. » Il la gratifia d'un hochement de tête et donna un petit coup à son chul. Le chariot se mit en marche.
« Je les ai écoutés la nuit dernière, » déclara Motif d'une voix bourdonnante et surexcitée depuis le dos de sa robe.
« La non-existence est-elle vraiment un concept si fascinant pour les humains ?»«
Ils ont parlé de la mort, c'est ça ?»
s'exclama Shallan. « Ils se demandaient constamment si vous alliez venir vous en prendre à eux.
Je comprends bien que la non-existence ne soit pas quelque chose d'enviable. Mais ils en parlaient sans discontinuer. Fascinant, en effet.
Continuez à tendre l'oreille, Motif. Je soupçonne que cette journée va devenir de plus en plus intéressante. »
Elle se dirigea de nouveau vers la tente. « Mais je n'ai pas d'oreille, » protesta-t-il.
« Ah oui, une métaphore ? Quel mensonge délicieux. Je me rappellerai cette expression. » Les camps de guerre à Leti étaient beaucoup plus grands que Shallan ne s'y attendait. 10 étaient compacts à la suite, chacune crachant la fumée de milliers de feux. Des rangées de caravanes affluaient dans les deux sens, dépassant les bords de cratères qui composaient leurs murs. Dans chacun des camps flottaient des centaines de bannières proclamant la présence de Palziris de haut rang. Tandis que le palanquin lui faisait descendre une pente, elle se trouva réellement abasourdie par l'ampleur de la population. Père des tempêtes. Elle avait autrefois considéré la foire de la région de son père comme un rassemblement immense. Combien de bouches y avait-il à nourrir là-dedans? Quelle quantité d'eau devait-il recueillir lors de chaque tempête majeure? Une secousse ébranla son palanquin. Elle avait laissé le chariot en arrière. L'échule appartenait à Macob. Elle essaierait de vendre le chariot, s'il était encore là, lorsqu'elle enverrait ses hommes le récupérer. Pour l'heure, elle voyageait dans le palanquin, transportée par les parches sous le regard attentif d'un Palziris qui les possédait et qui louait le véhicule. Ils marchaient à leur côté. L'ironie de se faire porter sur le dos de Néantifère pour entrer dans les camps ne lui échappa guère. Derrière le véhicule marchaient Vatat et les 18 gardes de Shallan, puis ses 5 esclaves, qui transportaient ses malles. Elle les avait habillés de chaussures et de vêtements provenant des marchands, mais on ne pouvait pas masquer des mois d'esclavage avec une nouvelle tenue. Et les soldats ne valaient guère mieux. Leurs uniformes n'avaient été lavés qu'à l'occasion d'une tempête majeure. Et ils avaient alors été davantage trempés que nettoyés. Les bouffées de leur odeur, qui lui parvenaient de temps en temps, lui rappelaient pourquoi elle voulait qu'il marche derrière son palanquin. Elle espérait ne pas être en aussi triste état. Elle portait le parfum de Tine. Mais l'élite à Leti préférait les bains fréquents et les odeurs propres. Héritage de la sagesse des héros. Se laver lors de la survenue des tempêtes, serviteur comme clarissime, afin d'éloigner les sprènes de pourriture et de purifier le corps. Elle avait fait son possible à l'aide de quelques seaux d'eau, mais ne pouvait pas se permettre de s'arrêter pour se préparer de manière plus adéquate. Il lui fallait la protection d'un haut prince, et vite. À présent qu'elle était arrivée, l'immensité des tâches qui l'attendaient la frappa de nouveau. Découvrir ce que Jasna cherchait dans les plaines brisées. Utiliser les informations qu'elle y trouverait pour persuader les dirigeants à Leti de prendre des mesures contre les parches. Se renseigner sur les gens que Tine rencontrait. Et que faire ensuite? Les arnaquer d'une manière ou d'une autre? Découvrir ce qu'ils savaient sur Ouritirou?
détourner leur attention de ses frères? Et peut-être trouver un moyen de les faire payer pour avoir tué Jasna? Tellement de choses à faire. Il allait lui falloir des ressources. Dalinar Colline était son meilleur espoir de ce point de vue. « Mais va-t-il accepter de m'accueillir ?» murmura-t-elle. Demanda Motif sur le siège à côté d'elle. « Je vais avoir besoin qu'il me parraine. Si les informateurs de Tin savent que Jasna est morte, Dalinar doit le savoir lui aussi. Comment réagira-t-il à mon arrivée inattendue? Va-t-il reprendre ses livres, me tapoter la tête et me renvoyer à Jacques Eved? La maison Colline n'a pas besoin d'union avec une védaine inférieure comme moi. Et puis, je suis en train de divaguer tout, c'est ça ?»«
Répondit Motif. Il semblait somnolent, quoiqu'elle ignore si les Spren pouvaient éprouver de la fatigue. Sa nervosité s'accrut à mesure que sa procession approchait des camps de guerre. Tin s'était montré ferme sur un point. Shallan ne devait pas demander la protection de Dalinar, car elle lui serait alors redevable. Bien que Shallan ait tué cette femme, elle respectait son opinion. Y avait-il du vrai dans ce qu'elle avait dit sur Dalinar? On frappa un coup à la vitre du palanquin.
« Nous allons devoir demander au Parge de vous poser un instant, » déclara Vatat. « Nous devons nous renseigner pour savoir où se trouve le Haut-Prince. »«
Très bien !» Elle attendit avec impatience. Ils avaient dû envoyer le propriétaire du palanquin s'acquitter de cette commission. Vatat était aussi nerveux qu'elle à l'idée d'envoyer un de ses hommes seul dans le camp de guerre. Elle finit par entendre une conversation étouffée à l'extérieur, et Vatat revint, ses bottes raclant la pierre. Elle tira le rideau pour le regarder.
« Dalinar Colline se trouve auprès du roi, » déclara Vatat. « Toute la bande de Haut-Prince est là-bas. »
Il semblait perturbé lorsqu'il se retourna vers les camps de guerre.
« Il y a quelque chose dans les vents, Clarissime. »
Il étrécit les yeux.
« Trop de patrouilles. Beaucoup de soldats dans les rues. Le propriétaire du palanquin refuse d'en dire plus, mais tout semble indiquer qu'il s'est produit quelque chose récemment. Quelque chose de mortel. »
« Dans ce cas, » répliqua Shallan, « conduisez-moi au roi. » Vatat la regarda en haussant un sourcil. Le roi d'Aledkar était sans doute l'homme le plus puissant du monde.
« Vous n'allez pas le tuer, n'est-ce pas ?»
demanda Vatat tout bas, en se penchant vers elle. « Pardon ?»«
J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles une femme puisse souhaiter... Vous savez... »
Il évita de croiser son regard.
S'approcher de lui, invoquer cette chose...
lui en transpercer la poitrine avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passe.
« Je ne vais pas tuer votre roi, » dit-elle, amusée.
« Cela dit, ça ne me dérangerait pas, »
répondit Vatat à mi-voix.
« J'espérais presque que vous le feriez. Celui-là, c'est un enfant qui porte les habits de son père. Tout a empiré en Aledkar depuis qu'il est monté sur le trône. Mais avec mes hommes, nous aurions du mal à repartir si vous faisiez ce genre de choses. » « Beaucoup de mal, même. »«
Je tiendrai parole. » Il hocha la tête, et elle laissa le rideau retomber devant la fenêtre du palanquin. « Père des tempêtes. Donner une lame d'éclat à une femme, la laisser s'approcher. Quelqu'un l'avait-il déjà tenté? Ça s'était forcément déjà produit, bien que cette idée la rende malade. » Le palanquin prit la direction du nord. Il leur fallut un long moment pour dépasser les camps de guerre. Ils étaient immenses. Enfin, elle risqua un coup d'œil à l'extérieur et vit une haute colline sur la gauche, au sommet de laquelle un bâtiment était sculpté à même la pierre. Un palais. Et si elle persuadait le clarissime Dalinar de l'accueillir et de lui confier les recherches de Jasna? Que serait-elle dans la maison de Dalinar? Une scribe inférieure qu'on laisserait dans un coin pour mieux l'ignorer? C'était ainsi qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie. Elle se retrouva soudain furieusement déterminée à ne plus jamais permettre que ça se produise. Elle avait besoin de la liberté et des fonds nécessaires pour enquêter sur Uri Tirou et le meurtre de Jasna. Shallan n'accepterait rien d'autre. Elle ne pouvait rien accepter d'autre. « Alors fais en sorte que ça se produise », songea-t-elle.
Si seulement c'était aussi facile. Tandis que le palanquin empruntait la route en lacet qui menait au palais, sa nouvelle sacoche... récupérée dans les affaires de Tin, se retrouva secouée et heurta son pied. Elle la ramassa et passa en revue les pages qu'elle contenait pour y trouver le croquis froissé de Blut tel qu'elle l'avait imaginé. Un héros plutôt qu'un marchand d'esclaves.
dit Motif sur le siège derrière elle.
Ce dessin est un mensonge, affirma Shallan.
Oui.
Et en même temps, il ne l'est pas. C'est ce qu'il est devenu, vers la fin, dans une petite mesure.
Oui.
Alors où est le mensonge, et où est la vérité?
Motif bourdonna doucement pour lui-même, comme un hedgehog satisfait devant une cheminée. Shallan tâta le dessin et le lissa. Puis elle sortit un carnet de croquis et un crayon, et se mit à dessiner. C'était une tâche difficile dans ce palanquin secoué de toutes parts. Ce ne serait pas son meilleur dessin. Malgré tout, ses doigts exécutèrent le croquis avec une intensité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des semaines. De grandes lignes au tout début, afin de fixer l'image dans sa tête. Cette fois, elle ne copiait pas à partir d'un souvenir. Elle cherchait quelque chose de nébuleux, un mensonge qui pouvait être vrai si elle parvenait seulement à l'imaginer correctement. Elle griffonna frénétiquement, penchée sur le papier, et cessa bientôt de ressentir le rythme des pas des porteurs. Elle ne voyait plus que le dessin, ne connaissait plus que les émotions qu'elle insufflait dans cette page. La détermination de Jasna, la confiance de Tine, un sentiment de justesse qu'elle ne parvenait pas à décrire, mais qu'elle tirait de son frère Ilaran, la meilleure personne qu'elle ait jamais connue. Tout ça se déversa d'elle dans son crayon puis dans la page. Des hachures et des traits devenant des ombres et des motifs, qui devenaient à leur tour des silhouettes et des visages. Un croquis rapide, hâtif, et cependant vivant. Il représentait Shallan sous la forme d'une jeune femme confiante qui se tenait devant Dalinar Colin, telle qu'elle l'imaginait. Elle l'avait représenté vêtu d'une cuirasse d'éclat, tandis qu'il étudiait Shallan, tout comme ceux qui l'entouraient, avec une intense consternation. Elle se tenait bien droite, levant la main vers eux, tandis qu'elle parlait avec confiance et puissance. Pas de tremblement ici. Pas de crainte de la confrontation.
Voilà ce que j'aurais été, songea-t-elle, si je n'avais pas grandi dans une maison où régnait la peur. Et voilà donc ce que je vais être aujourd'hui.
Ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité différente. On frappa à la porte du palanquin. Il avait cessé de bouger. Elle s'en était à peine aperçue.
Hochant la tête pour elle-même, elle plia le croquis et le glissa dans la poche de sa sage manche. Puis elle sortit du véhicule sur la pierre froide. Elle se sentait revigorée, et elle remarqua qu'elle avait aspiré une minuscule quantité de fulgiflamme à son insu.